Vous écoutez ou contemplez 2D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où l'on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes en fin d'année 2022 et voici l'épisode 7 du grand format Magistrat et Manigance. Lisa Banana joue le Docteur Yi, un praticien dévot et travesti. J.C. No incarne Fleuve Paisible, le repenti bon vivant. Et Volsung campe Shu Changmin, le Fangshi mélancolique. Accessoirement, tous trois peuvent être amenés à endosser le rôle du juge Jiang lui-même, quand ce n'est pas votre serviteur Lamson qui s'en charge en tant que maître du jeu. Dans l'épisode précédent, le magistrat et ses assistants ont retrouvé de nombreux notables du district à la réception organisée par la poétesse Zhu Luyi. Tout d'abord, le marchand Lin Bin, traîné par sa première épouse, promesse d'aurore, férue de poésie. Ensuite, l'ammoniale taoïste, clarté compatissante, qui cache mal son chagrin d'avoir perdu sa servante Shi le matin même, empoisonnée par des confitures. Mais aussi le moine bouddhiste coquille vide, aussi bonhomme que spirituel. Mademoiselle Yi entraîne Shu Changmin dans les jardins de la poétesse à la recherche de plantes digitales, une fleur dont on peut extraire un poison violent et indécelable des bulbes. Il trouve bien des digitales parmi une terre fraîchement retournée, à peine séparée du pavillon où se tient la fête par un étang. Leurs recherches sont observées par Lin Bin, qui croit y voir un rendez-vous galant entre le Fangshi et la guérisseuse, et donc une preuve du dévoiement de la suite du juge Jiang. Le ton monte entre le juge et le chef de la guilde des marchands. Pendant ce temps, Fleuve Paisible brille d'esprit auprès de Zhu Luyi, qui se plaint en vers de sa disgrâce de la cour impériale. La poétesse s'enquiert de la façon dont le Yamen connaît clarté compatissante et de la fidélité de Fleuve Paisible à l'impératrice. Brusquement, Coquille Vide attire l'attention. Il se met à déclamer des vers sur le thème de l'ivresse tout en volant et en vidant coup sur coup les coupes de vin de plusieurs convives. Clarté compatissante, Fleuve Paisible, Zhu Luyi elle-même, avant de s'effondrer devant le couple en formation. Shu, qui de l'autre côté de l'étang exerçait son art de Fangshi pour faire parler les esprits des victimes de la digitale, voit apparaître devant lui le fantôme de Coquille Vide, tout juste décédé, et qui confirme avoir été empoisonné, comme le constate immédiatement Fleuve Paisible. Possédé par l'esprit du moine, le Fangshi désigne la poétesse, puis tournoie parmi les convives à la recherche du meurtrier. Zhu Luyi semble déduire de la suite des événements que clarté compatissante, taoïste, aurait passé une coupe empoisonnée aux moines bouddhistes pour régler définitivement leurs différends théologiques. Mademoiselle Yi proteste et produit la preuve des bulbes de digital, tout en apprenant à tous la première tentative d'assassinat à laquelle la moniale a échappé de peu le matin même. Mise à l'écart de la foule par le juge Jiang et Mademoiselle Yi, clarté compatissante exprime à mots couverts que l'intégrité du juge sera mise à rude épreuve s'il cherche à la protéger. Pendant ce temps, la poétesse révèle à Fleuve Paisible un insigne du censorat impérial et lui promet de révéler où le juge mettra en sécurité l'ammoniale. Notre septième épisode s'éloigne de cette politique de haut vol. Le juge Jiang ne peut pas délaisser les affaires plus terre à terre du district. Comme nous reprenons après une longue interruption, nous devons activement nous rappeler tous les faits des différentes affaires que le juge est censé avoir en tête, mais qui sont parfois loin dans nos esprits. Vous entendrez que nous prenons cette précaution avant la première scène, mais pas pour la seconde. Ce qui aura des conséquences sur l'aura du magistrat auprès des bouddhistes. Bonne écoute. Il faut que je vous parle de quelques petites modifs, vu qu'on s'est dit que, quand même, au bout de la septième séance, on est peut-être plus en mode one shot.
Possible.
Peut-être.
Déjà, parlons des points de reine. Donc, la règle du bouquin, c'est que normalement, on a 5 points de reine en début de chaque séance. Et l'historique disparaît complètement d'une séance à l'autre. Moi, ça me plaît moyennement déjà parce qu'en fait, dans la règle, on dit que les points de reine, ça permet aux joueurs de prendre le contrôle de points mineurs de la narration. Mais en fait, vous le faites déjà allègrement et gratuitement. Et globalement, j'adore ça. Donc, j'ai pas du tout envie qu'on se mette à compter les points de reine sur ça. Mais par contre, pour garder l'équilibre un peu sur le reste, faut qu'il y en ait un petit peu moins. Et puis aussi, c'est quand même pas mal de garder un peu d'historique, surtout qu'on fait des séances qui font pas 6 heures de long. Et donc, du coup, comme les points de reine, vous les gagnez en jouant vos rites. Par exemple, si on prend le bon vivant hein, de Fleuve Paisible, il a comme rite amour tragique et fraternité jurée. Bon alors, amour tragique ayant amplement fait la une de la dernière séance, il y a si longtemps.
Et fraternité jurée de 2 ou 3 séances avant, non ?
Oui. Alors, faut quand même que ça vienne à chaque fois perturber l'enquête. Là, je pense que c'est bienvenu perturber l'enquête, cette histoire de d'amour tragique la dernière fois. Et donc, typiquement, voilà, si vous gagnez un point de reine quand vous commencez une relation amoureuse, 2 quand elle engendre des complications et 4 quand elle tourne au drame. Je pense qu'on est globalement au niveau 2, hein. Donc, ça me semble intéressant que on garde un tout petit peu d'historique, histoire que JC profite du fait que Fleuve Paisible ait, se soit bien mis dans la panade la dernière séance. Il y avait aussi jeu dangereux avec Mademoiselle Yi qui s'est mis à parler un peu comme l'assistant du magistrat devant tout le monde la dernière fois. Puis, qu'est-ce que j'avais compté pour notre Feng Shui national ? C'est le fait qu'il se retrouve hanté par...
Coquille vide.
Coquille vide, bien sûr.
Mais c'était à mon initiative.
C'est vrai.
Pas vraiment... Je pense pas que ça s'applique.
Hein. Tu penses pas que ça s'applique. Ok, non. Très bien. Et donc, ce que je voulais faire par rapport à ces points de reine, c'est que vous en gagnez systématiquement 1 en début de chaque séance. Je sais pas où est-ce qu'on en était au départ.
Bah, de ce que j'en vois, là, on les avait notés sur le sur
non,
le board.
Je viens de les remettre, en fait. Je viens de les remettre. Et donc, ça, c'est ma proposition qui est sur le board, que on ait, du coup, le Docteur Yi à 2 points de reine, Fleuve Paisible à 3, parce que quand même il a mis en jeu un truc bien costaud la dernière fois, et je proposais Chou à 2, ce qui lui permet quand même de faire des trucs.
Oui.
Si tu veux te donner une difficulté supplémentaire, on peut le supprimer, mais à mon avis, on peut se mettre là, c'était il y a longtemps, tout ça.
Ça me paraît très bien.
Un autre point qu'il faut qu'on aborde pour cette espèce de passage en campagne, c'est la jauge de mécontentement. Donc, vous n'avez pas du tout parlé, ou alors très très vaguement lors de la création du magistrat, mais il y a une jauge qui permet de savoir où en est le mécontentement dans le district.
Quel est le fonctionnement de cette jauge de mécontentement ?
Alors, normalement, la jauge est à 0. Il y a des événements qui vont faire monter cette jauge. Alors, c'est des choses qui peuvent arriver aussi, tout simplement parce que vous vous comportez très mal par rapport au district, vous assistant comme juge, et du coup, ça fait jaser. Il se peut que ça commence un petit peu. À mon avis, là, la jauge, elle est plus à 0, par exemple. Et jusque-là, j'avais fait jouer ce genre de choses purement de façon roleplay. Par exemple, le fait que Lin Bin, par exemple, veuille commencer à faire courir des rumeurs sur ce qu'il a pris pour un rendez-vous galant entre Mademoiselle Yi et Xu Tianlin. Après, si vous résolvez des affaires d'une façon qui font des mécontents, eh bien, ça va faire augmenter la jauge de mécontentement.
Et quand on atteint un certain seuil, que va-t-il se passer ?
Eh bien, au fur et à mesure, on peut aller vers des choses de plus en plus désagréables. Par exemple, je pense que vous êtes autour du niveau 1, parce qu'il y a un notable qui se montre désagréable.
On lui a pas mal soufflé dans les bronches en même temps.
Voilà, tout à fait. Mais on peut imaginer que au niveau 3, par exemple, on puisse avoir des plaintes d'un surveillant de quartier, un témoin qui se montre insultant, une grève. Au niveau 5, on pourrait carrément avoir le soulèvement d'un quartier, la perte d'un contact, une visite surprise du préfet, donc qui est le supérieur du magistrat. Et à 6, on est carrément avec révolte fiscale, émeute urbaine, visite d'un inspecteur impérial, attentat contre le magistrat. Bien entendu, il y a des choses qui se passent à la montée des jauges, mais aussi à sa descente, parce que vous pouvez essayer de les faire redescendre. Et dans ce cas-là, on peut imaginer qu'au contraire, des gens se montrent très sympathiques dans une taverne, offrent à boire à quelqu'un d'autre que Fleuve Paisible, parce que lui, de toute façon, on lui offre forcément à boire, que le magistrat soit montré en exemple aux enfants, voire que des admiratrices ou des admirateurs envoient des billets doux à, par exemple, à notre Fangxi national. Donc voilà le genre de choses qui peut se passer. Pour l'instant, je jouais complètement en roleplay, ce genre de choses, mais peut-être qu'on peut voir cette jauge monter et descendre pour que vous sachiez un petit peu mieux où on en est.
Un peu surpris par l'apparition de ce point de règle, qu'on puisse quantifier comme ça le degré de, d'adoration ou de désamour du district en fonction de nos actions. Non pas que ce soit pas cohérent, bien au contraire, mais ça me surprend qu'on s'amuse à le quantifier, à devoir le consulter régulièrement pour savoir...
Non. Est-ce que ça vous va qu'on fasse ça au dos mouillé, ce truc-là?
Allez.
Ça me va très bien, parce que je trouve que ça te ressemble beaucoup plus, c'est pour ça que j'étais un peu...
Très bien. Eh ben, on va faire
un peu perplexe.
Attendez-vous quand même à ce que le mécontentement du district soit pris en compte. Après cette digression de règles, par quoi commençons-nous? Il y a plein de possibilités, hein, après cette soirée particulièrement mouvementée.
Et le rendez-vous promis qui aura lieu plus tard?
Ah, le rendez-vous entre Fleuve Paisible et la poétesse? Oui, j'espère bien qu'il aura lieu à un moment ou à un autre. À quel moment de la journée est-ce que ça va... à quel moment de la journée est-ce que ça va se faire, je ne sais pas encore. Donc il y a plusieurs entrées possibles qu'on s'est suggérées.
Tout à fait. Si tu veux, on peut un peu synthétiser les échanges par écrit qu'on a eus l'après-midi précédent la dite partie.
Ouais.
Déjà, on m'a rappelé que dans nos geôles croupissait un certain ex-contrôleur des décès, en la personne de Tinbei, c'est comme ça que ça se prononce?
Ouais, Tinbei, oui, oui.
Il était contrôleur des décès. Ah, j'avais oublié.
Sous le juge Zhao.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, et effectivement.
Suite à un délit de sale gueule de la part de frères jurés.
Non, c'était pas exactement ça.
Il croupit dans les geôles. À la base, son crime, c'est d'avoir...
Croire que l'une d'argent était enceinte alors qu'elle ne l'était pas.
C'était pour faire grimper sa cote, entre guillemets, de dire qu'elle était enceinte, c'est ça?
Exactement.
Et alors que oui. Dans ma tête, quand je l'ai arrêté, c'était le pire des pires, il a fait quelque chose de terrible à ses femmes. Donc oui, c'est une petite erreur judiciaire. Une petite, voilà.
Bah, oui et non, parce qu'en fait, il a menti.
Oui.
Et puis c'est marqué dans les registres officiels qu'il a certifié qu'elle était enceinte, alors qu'il savait pertinemment qu'elle ne l'était pas. C'est donc, oui, je pense, une faute déontologique.
Sur le papier, il a commis un truc, voilà. Après, ce n'était pas aussi moralement répréhensible que je pensais, mais voilà.
Et d'ailleurs, à ce propos, j'avais une question. Y a-t-il des dispensaires pour que les pauvres et les indigents reçoivent des soins dans la bonne ville de Sangwan, le district de Sangwan? Donc, est-ce que ça existe?
Est-ce que ça existe? Bah, dis-moi, c'est quand même toi qui es plus au fait des choses médicales dans ce district.
Ah bah, si c'est moi qui décide, ça existe. Hein.
Voilà, ça doit exister. C'est même possible que ta sœur, enfin bon, bref, y officie, oui, de temps en temps.
Non, mais parce que du coup, moi, je condamnerais bien ce brave Kinbei à devoir y officier obligatoirement plusieurs jours par semaine, et gratuitement, pour se repentir de son odieux mensonge. Et puisqu'il veut aider les gens, eh bien, qu'il le fasse.
J'aime bien. Ceci dit, il est aussi le détenteur d'un secret très utile dans une de nos affaires en cours.
Je veux bien que tu précises.
Eh bien oui, un drame s'est joué au sein du domaine du patriarche Linbin. Lune d'argent a perdu son enfant, enfant qui n'a jamais existé, suite à une fausse couche provoquée par une herbe abortive.
Oui, mais ça, une fois qu'on saura quelle épouse a voulu empoisonner Lune d'argent, a priori, on n'a plus besoin que ça soit un secret.
Tout à fait. Mais du coup, ça nous donne un ordre de priorité.
Donc on fait l'enterrement avant le procès.
Si par enterrement tu associes cela à une mise en scène mystique ou macabre, oui, où on va tenter de faire avouer ce qui est vraisemblablement la coupable en la personne d'une des autres épouses qu'a tenté de faire injustement accuser Promesse d'Aurore, puisque elles se jalousent toutes et se pied dans les pattes. Et comme c'est la seule de haute naissance, j'imagine qu'elle a dû accumuler un certain nombre d'inimitiés de la base de ses roturières.
Il y avait un autre point aussi que je tiens à rappeler, parce que ça fait longtemps. Je crois que c'était Mademoiselle Di qui avait ausculté l'une d'argent, la concubine qui avait fait cette fausse couche, et qui lui avait plus ou moins promis que le fait qu'elle ne portait pas un enfant ne serait pas divulgué.
C'est vrai. Et je pense que ça peut ne pas être divulgué tout en étant consigné dans les dossiers du tribunal.
Donc, il n'y a aucun problème quelque part pour que le procès de Tin Bei arrive avant...
Non, effectivement.
C'est pas censé arriver aux oreilles des épouses
Non, moi, pour moi, c'était assez clair que c'est pas une information qui a besoin d'être publique, en fait. Le mensonge du médecin n'a même pas besoin d'arriver aux oreilles publiques. Il va juste consacrer du temps aux pauvres et aux indigents. Pas parce qu'on lui aura obligé, parce qu'il a très envie de le faire.
Eh bien, et si on commençait par une audience, car les jugements doivent être rendus à des audiences publiques. Néanmoins, le magistrat, fin renard comme il est, sait très bien que les audiences publiques au tout petit matin ne sont que théoriquement publiques, il n'y a pas grand monde. Et donc, est-ce que ça serait pas le moment où Tin Bei est sorti de sa geôle pour être emmené devant le magistrat?
Je vais évoquer une dernière chose avant cela, avant d'enfin lancer une scène. Il y a deux choses qui me travaillaient avant le vaste programme qui nous attend autour de l'affaire Lin Bin, qui est presque devenue une affaire mineure au vu de l'affaire encore plus énorme autour des tentatives d'assassinat de clarté compatissante et de son origine impériale. On n'a pas pris la peine d'enquêter sur qui aurait pu approcher de près ou de loin les breuvages qui ont été régulièrement servis à l'épouse enceinte. Et l'autre question qui me taraude, parce que en tant que PJ, je trouve que c'est quelque chose d'assez énorme, le fait qu'on nous précise que parmi les 5 épouses, il y en a une qui a expressément rendu visite à ses parents paysans, pour avoir encore en mémoire les 3 affaires résolues par le juge T. Les alibis, ça se construit et ça se détruit aussi assez facilement. Je pense que c'est pas très difficile d'envoyer un sbire savoir si elle s'est bien rendue à la destination en question ou quelque chose comme ça. Je m'en parle même d'un passage où il se contente de demander à un garde à une certaine porte s'il a reconnu le passage de telle ou telle personne. Bref, je sens qu'on est dans les clous si on fait ça. On a qu'on s'en soucie.
Effectivement, c'est à s'en soucier, mais je dirais qu'il faudrait amener ça en jeu, peut-être à un moment donné où l'un d'entre vous joue le magistrat. Parce que autant le juge donne des ordres aux sbires et peut du coup agir beaucoup par leur intermédiaire, autant c'est quand même beaucoup plus marrant quand les assistants eux-mêmes se déplacent et font des choses.
C'est clair. Mais il y a de la route. Surtout pour poser ce genre de questions. Bref, repassons à la séance matinale. Qui va jouer le juge?
Moi, ça me va de faire le juge. Hein. Si jamais personne ne veut se lancer, allons-y, quoi. Et il me semble que la dernière fois devant Tin Bei, c'était moi qui avais fait le juge. Je sais plus si c'était devant lui ou devant Lin Bin. J'aurais lu.
Et puis, le jugement, tu l'as déjà en tête, quoi. La sentence, tu l'as déjà en tête, donc...
Allez, c'est parti.
Donc, c'est le tout petit matin. Et donc, on tire un Tin Bei assez défait, qui doit depuis plus de 24 heures se poser des questions sur son sort, se demander quelle va être la sentence qui va l'accabler bientôt. Il pense à plein de choses, il pense au regard accusateur et méprisant que lui a lancé sa femme, Kim Jin-me, la dernière fois qu'il l'a vue. En présence du juge d'ailleurs, et que ses arrangements avec la vérité sont apparus au grand jour. Et donc qu'il arrive assez anxieux, se prosterne devant le juge, garde son front au sol et prononce « La misérable personne qui se tient devant vous attend le jugement qui ne pourra être que très sévère. »
On est dans les clous. Il a dit l'achievement, l'insignifiante personne.
Je le regarde avec un sourire léger dessiné sur mon visage. Kinbei, si je suis heureux de te trouver là ce matin, c'est peut-être parce que le jugement n'a pas besoin d'être sévère pour être juste. Fleuve paisible, peux-tu nous rappeler de quoi ce médecin est accusé ?
Votre Excellence, ce médecin est accusé d'avoir menti sur l'état d'une jeune femme, affirmant qu'elle était enceinte alors qu'elle ne l'était pas. Par ailleurs, il est accusé d'avoir fait monter les enchères avec ses fausses informations pour que le marchand Lin Bin épouse une jeune femme du ciel penchée sur les arbres à grands frais.
Oserais-je demander à quoi est-ce que tu ressembles, frère juré, après la nuit que nous avons tous passée ? Est-il quoi que ce soit qui trahit ton trouble ?
Oui, j'ai des deux points noués dans mon dos et on ne voit pas les spasmes nerveux qui me font crisper mes doigts sur ma paume. Mon regard et mon visage sont impénétrables, plus graves qu'à l'accoutumée. Mais seules les personnes qui me connaissent bien pourront reconnaître là les signes d'une grande agitation intérieure.
Tu as retrouvé ton accoutrement habituel ou tu es toujours dans cette tenue de soirée bleue nuit qui t'allait si bien ?
Non, cette tenue, je ne la remettrai pas.
Mais non plus jamais.
Je suis dans mon accoutrement habituel.
Après que tu aies rappelé les faits, le juge te sourit avec compassion. Tu as parlé clairement pour quelqu'un qui semble avoir si peu dormi. Ce ne sont pas des mots qu'il prononce, mais c'est ce que son regard te transmet. Kinbei, tu es accusé de choses graves pour un ancien contrôleur des décès qui a assisté mon prédécesseur. Le mensonge ne devrait pas être accepté. Pourtant, tu te défends d'avoir agi pour de nobles raisons. Et il semblerait que parmi mes assistants, certains puissent être sensibles à ta cause. Aussi, j'ai décidé que ta condamnation serait clémente. En effet, tu ne croupiras pas dans les geôles. Tu ne seras pas condamné à de la torture. Non. Je te propose un châtiment à la mesure de tes compétences. De tes compétences de médecin.
Il s'écrase à terre encore plus. Déjà qu'il avait le front par terre, mais là, ses mains se lèvent au-dessus de sa tête, comme déjà pour signifier le remerciement, même s'il ne dit pas une parole.
Je suppose que tu sais où se trouve le dispensaire dans les quartiers sud-est de la ville.
Oui, Votre Excellence. La misérable personne qui se tient devant vous y exerce parfois. Et c'est d'ailleurs ainsi que j'ai pu y rencontrer Lune d'Argent, par exemple.
Très bien. Tu y exerceras donc plus régulièrement. Il se pourrait même que tu deviennes un des médecins principaux de ce dispensaire. Bien sûr, tu y exerceras gratuitement, parce que c'est comme ça que ce dispensaire fonctionne. Il se peut que je vienne parfois en personne te rendre visite et vérifier que tu respectes ton astreinte. Mais la sœur du docteur Yi, qui est l'actuel contrôleur des décès sous mes ordres, y exerce également et pourra me rapporter ta présence. Aussi, je m'attends à ce que la raison pour laquelle tu y exerceras plus souvent ne soit pas connue des administrés.
Oui, Votre Excellence.
Ça ne doit pas être vu comme une punition, mais comme une manière pour toi, Kinbei, de rendre à la société ce qu'elle t'a apporté.
La misérable personne qui se tient devant Votre Excellence vous remercie du fond du cœur pour cette générosité et la justesse de ce jugement.
Aussi, je me permets un commentaire qui a peu à voir avec la justice. Mais je pense qu'il faut que tu saches, Kinbei, qu'une des raisons pour lesquelles cette condamnation est aussi clémente, c'est que ta femme, que tu n'as pas manqué de déshonorer, a plaidé en ta faveur. J'espère que cette information t'aidera à revoir ton comportement et à te comporter en digne époux auprès d'elle.
La misérable personne qui se tient devant vous entend ces paroles et fera désormais encore plus qu'à l'accoutumée tout ce qui est en son pouvoir pour honorer ses ancêtres et ne plus souiller la vérité.
Bien. Je me tourne vers les assistants. Avez-vous quelque chose à apporter à ma connaissance avant que la séance ne soit close ?
Étrangement, je nous imaginais absents, Docteur Yi.
Peut-être que sa sœur est au dispensaire.
Tu vois à mon regard que j'ai quelque chose à te dire, mais après la séance.
Très bien. Eh bien, satisfait de son jugement rendu, le juge Zhang se lève du fauteuil sur lequel il était assis pour rendre la justice, ouvre les bras vers le tribunal. Eh bien, levez-vous, Kinbei. Vous êtes un homme libre. La porte vous attend comme le soleil se lève sur la bonne ville de Sangyang.
Kinbei se retire à reculons en s'inclinant de nombreuses fois dans ta direction. Et c'est finalement une fois qu'il a quitté la pièce que il véritablement se retourne, et peut-être que le juge se détend un petit peu à ce moment-là. Le gong retentit.
Ah ! Deuxième achievement.
Et entre deux moines à la robe safran qui se présentent pour répondre à la convocation du juge. Et peut-être que un sbire est envoyé rapidement vers les quartiers du docteur Yi pour que il vienne assister à l'audience.
Oui, s'il vous plaît. Je cède la robe du juge avec plaisir. Faites-leur mordre la poussière.
C'est le retour de la revanche de Balle de Coton ou...
Oui, ce sont Océan de Sagesse et Balle de Coton. On n'avait pas tout à fait déterminé, donc il y a deux séances, ce qui s'était passé à leur sujet, mais j'imagine que le temps d'arriver au monastère, le juge était déjà plus ou moins en train de se préparer pour la réception. N'oublions pas que le monastère est à quelques heures de marche de la ville. Et donc, probablement que leur audience a été ajournée au lendemain. Il s'est passé beaucoup de choses entre-temps, mais ce lendemain est arrivé, les moines se levant tôt, les voilà pour répondre à la convocation du juge qui leur avait été transmise par Fleur Paisible.
Je suis un peu embêté parce que j'aimerais bien jouer le juge, mais du coup, comment est-ce qu'on expliquera mon absence ?
C'est une bonne question.
Il n'y avait pas un truc avec où tu devais aller voir l'apothicaire pour voir s'il y avait de la digitale dans la confiture ?
Si, effectivement.
Ben voilà.
Je pense que j'ai fait un rapport très précis au juge, donc effectivement, peut-être même ma présence n'est pas nécessaire.
Mais si, par contre, tu voulais dire un truc au juge après le jugement, le juge t'écoute.
Oui, alors du coup, je sais pas si j'ai le temps.
Si, 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 il demande audience, mais il y a quelques... Il y a le temps d'un petit battement, en tout cas.
Ah bien. Donc, fleuve paisible, a les yeux rivés à une fenêtre, ce qui donne sur la cour du Yémen, cette terre fine sur laquelle il s'est entraîné maintes fois, ses entraînements de Kung Fu. Donc c'est dans cette position très dramatique, toujours les mains jointes dans le dos, qu'il dit de sa voix claire « J'ai commis une erreur avec le docteur. Vous le savez, n'est-ce pas, votre excellence ?»
Disons que vous avez été entraîné par votre fougue.
Je ne sais pas si ce n'est que ça. Vous êtes, comme toujours, particulièrement indulgent avec moi. Mais depuis quelque temps, mon jugement est troublé. Il n'est pas aussi affûté que je le voudrais. Il faut croire que l'ancien chevalier des Vertes Forêts que vous avez recruté avait son intérêt dans nos précédentes affectations, mais je pense que cette ville, je ne vous fais pas honneur ici.
Le juge lève un sourcil. Voyons cela, fleuve paisible. Dites-moi ce qui vous tourmente.
Je vous ai déjà parlé de celui qui m'a appris les arts de l'esprit, n'est-ce pas ? Ce vieil ermite qui refusait de nous dire son véritable nom.
Oui, effectivement. Nous en avons longuement discouru pendant notre voyage jusqu'ici.
Il était... Disons que je pense qu'il avait une raison de masquer son identité. Il en savait beaucoup sur des sujets particulièrement exotiques. Il s'était notamment intéressé aux barbares hors de nos frontières. Des gens de lointaines contrées. Et il m'a un jour exposé l'une de leurs théories, l'un de leurs concepts. Ils appellent cela l'aporie. Un mot que je prononce avec un accent à couper au couteau. Selon mon maître, et je n'ai pas l'ambition de restituer sa sagesse avec précision, il s'agit d'un problème insoluble, d'une boucle logique qui ne trouve pas de résolution. Le moment que vous avez peut-être rencontré, votre excellence, où aucun jugement juste n'est possible. Il m'arrive d'être piégé dans ce genre de boucle, à l'occasion.
Quel est donc le rapport avec Kinbei ? Je ne te suis pas, fleuve paisible.
Ah, votre excellence, il est possible que lorsque la charge diurne vous aura donné un peu de paix, peut-être ce soir, il est possible, oui, que je requière vos conseils sur un sujet épineux, si vous me le permettez.
Bien sûr, bien sûr. Le temps presse et les affaires s'accumulent, mais je saurais trouver du temps pour que nous puissions parler. Malheureusement, pas maintenant. Je vois Océan de Sagesse qui s'impatiente.
Je me retourne vers lui et je m'agenouille sur le sol avec beaucoup de respect et d'affection. Et puis je lui dis qu'il faut que je presse le pas jusqu'à chez l'apothicaire.
Le juge, avant de se tourner vraiment complètement vers les deux moines qui attendent, te suit du regard avec des diverses interrogations qui s'entrechoquent dans sa tête. Qu'est-ce qu'a bien pu vouloir dire fleuve paisible ? Mais les affaires s'amoncellent et il faut les résoudre. Et donc il se tourne vers les moines bouddhistes.
En effet, on ne laisse rien trahir de ses multiples interrogations. Il reprend tout de suite le personnage d'un mouvement de poignet, de son port de tête, il redevient le juge, pleinement et entièrement acquis à sa charge.
Et par ce petit tour de passe-passe, nous avons inversé nos sièges.
Très juste.
Pour préciser pour l'auditoire.
Oui, pardon.
Pour qu'il puisse suivre. Et donc, où est-ce que le juge Zhang reçoit Océan de Sagesse et balle de coton. Est-ce que c'est dans la grande salle d'audience, parce que finalement un certain nombre de faits sont déjà connus, ou est-ce que c'est pour un entretien plus privé ?
Je pensais à un entretien plus privé.
Est-ce qu'on entend le rire du docteur Yi et ses pas pressés qui se répercutent dans les couloirs du Yanmen ?
On entend clairement ses pas pressés qui se répercutent dans les couloirs du Yanmen. Je pense même d'ailleurs que les observateurs les plus attentifs verront le docteur Yi changer de paire de chaussures juste avant d'entrer dans la salle du Yanmen, parce qu'elle était en Mademoiselle Yi quand elle a entendu que quelqu'un cherchait son frère pour lui faire transmettre le message qu'il était attendu au Yanmen.
Ça se résume à ça ? Tu changes de chaussure et pouf !
Non, j'ai changé ma tenue avant, mais je me suis aperçue que j'avais oublié de changer de chaussure. J'avais des chaussures de femme et il faut que, évidemment, que je mette les chaussures de mon frère, quoi. Je pense que c'est juste une petite coquetterie, un petit signe que le changement est opérant au moment où le docteur pénètre dans le Yanmen.
Et alors que tu approches de la salle de l'entrevue, est-ce que tes ongles fuselés font crisser les murs alors que tu les affûtes ?
Red is dead.
Sur le radar du juge, un petit point vert est en train d'approcher.
Exactement. Non, mais je pense que on entend peut-être le craquement de mes jointures à mesure que je me rapproche de ces moines bouddhistes. Et évidemment,
j'en ai des biens, tu sais.
On verra.
Not all monks.
Pas mal. Je me mets dans un coin de la pièce et je tente de garder ma contenance.
Le juge te t'adresse un hochement de tête et tu crois déceler une petite étincelle d'ironie dans son regard en te voyant non sans une certaine affection. Quelque chose qui veut dire, je suis évidemment que tu n'allais pas rater ça. Bien. Présentez-vous.
Océan de sagesse fait un pas en avant, s'agenouille, met son front à terre, impeccablement. C'est un homme incroyablement jeune pour la charge qu'il occupe. On s'attendrait à ce que l'abbé d'un monastère bouddhiste ait passé les plus vertes de ses années. Mais Océan de sagesse doit avoir à peine 30 ans, peut-être. Il est impeccablement vêtu de la tenue des moines bouddhistes. Sans la moindre ostentation, il n'y a aucun insigne sur lui, aucun couvre-chef imposant, médaille ou autre qui pourrait laisser penser que il est le supérieur du moine qui se tient à ses côtés, qui d'ailleurs imite tous les gestes d'Océan de Sagesse avec une fraction de seconde de retard, et on voit bien qu'il est en train de l'imiter, et à cela on distingue immanquablement qui a l'autorité entre les deux. Ce deuxième moine, c'est Balle de Coton, un petit homme rondouillard, et malgré le rasoir qui passe régulièrement sur son crâne, on devine que les cheveux qui devraient y pousser sont bien plus gris que noirs. L'humble personne qui se tient devant vous se nomme Océan de Sagesse.
Bien. Océan de Sagesse. Je vous ai convié dans cette salle pour une discussion plus discrète, car j'ai quelques sujets délicats à aborder. Je pense que vous le comprenez.
Je remercie votre excellence de nous accorder cette discrétion. Votre assistant m'a fait part qu'il y avait des brebis galeuses dans le monastère que j'ai l'honneur de diriger. Eh bien, je suis responsable de ces personnes. Et je tenais à m'en remettre à la sagesse du juge de ce district quant à aux sanctions qui s'appliquent tout naturellement à ma personne et pas uniquement aux subordonnés que je n'ai pas su garder dans le droit chemin.
Pour illustrer le caractère plus intime de la scène, le juge, contrairement à son habitude, se lève et commence à tourner lentement d'un pas et d'un regard qui indique une certaine forme de réflexion autour de ses hôtes, d'un pas lent et le regard vers le plafond. Océan de sagesse, savez-vous pourquoi notre culture tient en si haute estime l'irréprochabilité du chef de maison?
Eh bien, il me semble que dans les textes du professeur, il est fait mention que chaque strate de la hiérarchie sociale est comme une maison. L'impératrice est notre mère à tous, quelque part, et nous devons, à chacun de ses étages, faire respecter la paix céleste.
Le magistrat hoche lentement la tête, comme s'il attribuait un bon point. Exactement. Et lorsqu'un doute, lorsqu'une tâche vient maculer un tissu jusque-là éclatant, c'est tout l'édifice qui tremble. Voyez-vous, océan de sagesse, le fait que vous n'ayez pas remarqué la présence de cette brebis galeuse m'interroge sur le reste de vos agissements et m'encourage à passer en revue l'ensemble de vos activités. Avant que nous arrivions à l'affaire la plus pressante, qui est celle de Pelle de Coton, entre autres, j'aimerais vous interroger sur l'identité de vos hôtes qui ne semblent pas de la région.
À la mention de son nom, Balle de Coton s'est recroquevillé comme si un fouet avait claqué à quelques centimètres de ses oreilles. Océan de sagesse lui a lancé un regard noir, le rendant au moins partiellement, personnellement responsable de la situation inconfortable dans laquelle il se trouve. Eh bien oui, votre excellence est bien renseignée. Notre monastère accueille des pèlerins, comme il se doit. Certains pèlerins qui ne font que traverser l'Empire et se rendent dans notre monastère qui, eh bien, je le constate, jouit d'une réputation suffisante pour les attirer. Et d'autres qui ont pu aller plus loin aux sources de notre doctrine. Vers l'Inde, notamment.
Je vois, je vois. Océan de sagesse, je ne suis pas au fait de tous les aspects de votre religion. Qui attribue vos noms?
Eh bien, quand j'ai prononcé mes vœux, ce nom m'a été attribué par celui qui était à l'époque l'abbé et dont j'ai l'honneur d'avoir été choisi comme successeur.
Le juge sourit et un hochement de tête appréciateur. Et vous êtes très jeune, n'est-ce pas? Pour un tel honneur.
Effectivement, mon prédécesseur, j'ai entendu dire qu'il n'avait pris sa charge que, eh bien, au moins 10 ans après mon âge actuel.
J'imagine que cela se traduit par une lourde responsabilité, une envie de bien faire qui doit être parfois bien lourde à porter.
Mais que j'essaye de porter avec le plus de courage qu'il m'est possible. Malheureusement, il semble que... Eh bien, il semble que mon âge, peut-être, mon inexpérience avec des hommes plus âgés que je pensais plus sages, peut-être. Ils m'ont rendu aveugle à certains problèmes. Je ne me cherche pas d'excuses, bien entendu.
Peut-être ont-ils essayé d'abuser de notre confiance par ce biais, en effet. Je vois. Mais vous comprenez mes craintes. Si vous avez ouvert votre porte à des brebis galeuses, et comme mon assistant semble penser que vous avez peut-être essayé de dissimuler la présence des pèlerins, il se trouve que mon inquiétude grandit. Qui d'autre pourrait cacher des motifs répréhensibles dans votre maison ?
Malheureusement, je ne sais trop bien que j'abrite des moines, mais je n'abrite pas que des saints. Le sentier octuple est long et difficile à atteindre pour certains. Je me rends compte que la discipline que je fais régner n'est pas assez stricte. Je me rends compte trop tard. Et si votre excellence me le permet, j'ai réfléchi depuis hier et je pense que les moines que j'ai sous ma responsabilité devraient être plus concentrés sur l'étude et la prière, et que les sorties en ville et à diverses réceptions mondaines devraient être exceptionnelles à l'avenir. Vas-y.
Vous entendez dans le fond de la pièce le docteur Y marmonner, plus occasionnel et plus encadré peut-être.
Docteur Y, puisque profitez de ce cadre légèrement relâché pour prendre la parole, je pense que vous avez peut-être une suggestion en la matière.
Je pense que en ville, les moines bouddhistes devraient être accompagnés de personnes responsables. Je ne songe peut-être pas à proposer qu'ils soient systématiquement accompagnés par exemple, les moniales du temple taoïste de Guanyin. C'est peut-être exagéré, mais...
Une moue déforme le visage d'océan de sagesse.
Mais peut-être... Peut-être qu'effectivement, les faire sortir seulement en présence de moines dont vous êtes... dont vous pouvez vous porter garant de la sagesse et de la bonne tenue en ville, serait quelque chose à envisager. Ils ont tout de même agressé des femmes, et ils se rendaient dans un quartier de plaisir. Il me semble que ça n'est pas tout à fait la voie du sentier octuple, bien que je ne sois pas bouddhiste moi-même pour pouvoir étaler des connaissances que je n'aurais de toute façon pas sur votre croyance.
Vous avez parfaitement raison. Si le personnel du Yamen voulait bien me faire part de tous les détails et des identités de ces fauteurs de troubles, croyez bien qu'ils seront chassés immédiatement du monastère.
Eh bien...
Et également défroqués. Il est absolument inadmissible pour des moines qui ont prêté vœu, entre autres, de chasteté, de se rendre au quartier des fleurs.
Je me permets une réflexion, Votre Excellence. Peut-être que les renvoyer du monastère et en faire le problème de quelqu'un d'autre, de la société tout entière, finalement, n'est pas la chose la plus avisée. Peut-être que leur place est effectivement dans ce monastère, et que c'est là que la discipline doit s'exercer, pour les mettre sur le droit chemin. Mais je ne suis pas ici pour rendre les sentences, seulement pour donner mon impression sur ce que j'ai l'impression qu'il se passe dans votre monastère. Celui où vous pensez pointer du doigt des brebis galeuses, mais où il y a peut-être quelque chose de plus généralisé.
Vous pensez donc, docteur, que un monastère est un lieu
où l'on peut résider et continuer à se dire moine alors qu'on a fait preuve de son impiété ?
Eh bien, je suis confucianiste. Pour moi, un monastère est un endroit de réflexion, d'apprentissage de la sagesse. On n'arrive pas au temple avec la sagesse. On la découvre. Et cela demande du temps et de la réflexion. Parfois même de s'isoler un temps du monde.
Océan de sagesse, je pense que vous ferez honneur à votre nom en reconnaissant la pertinence de ces propos.
Vous voulez donc que je pardonne à ceux qui se font passer pour des moines sans en avoir l'étoffe ?
Absolument. Il n'est absolument pas question de pardonner. Simplement d'acter le fait que, en restant aveugle à leur péché, c'est vous qui avez failli à votre maison. C'est vous qui avez mis en danger la stabilité de notre communauté. Et c'est à vous de réparer l'offense. En les défroquant, vous vous défaussez de votre responsabilité de chef de maison. Et si la foi bouddhiste vous anime, notre sagesse légale est assez stricte en la matière.
Bien.
Il n'est pas question de pardonner quoi que ce soit. Et il est évident qu'une interdiction prolongée de sortie me tirerait tout à fait.
Je ne pense pas en rester là. Mais je comprends. Je comprends votre raisonnement, même s'il contrevient aux usages habituels de notre religion. Mais soit.
Pour ce qui est des faits passés, il y a une expression de. Une légère expression de dégoût que le magistrat n'arrive pas à cacher. Il est malheureusement évident que les gens qui ont été reconnus coupables d'agression envers des femmes recevront des coups de bâton en public.
Cela est bien.
Je me permets de rappeler qu'il ne s'agit pas seulement de coups de bâton. Brindille est également coupable de meurtre.
Oh, je ne parlais pas de Brindille. Il est évident que ce sinistre individu sera extradé pour être jugé pour ses crimes réalisés en dehors de notre région. Je parlais uniquement de ceux qu'il a entraînés dans sa sinistre expédition en nos murs.
Vous parlez donc de Pelle de Coton, il me semble ?
Très juste.
Pelle de Coton qui... Depuis que tu as parlé de coups de bâton, de ce genre de choses, est en train de se tordre les mains et de se pincer comme s'il essayait de se réveiller d'un très mauvais rêve.
Il est évidemment impossible d'imaginer qu'un tel trouble de l'ordre public reste impuni aux yeux de notre communauté.
Tout à fait. Toutefois, si je puis me permettre une remarque, Votre Excellence... Il est certains moines qui, certes, suivaient Brindille dans ses errements et allaient au quartier des fleurs, ce pourquoi, eh bien, la règle bouddhiste doit s'appliquer avec toute sa sévérité, et compter sur moi pour le faire. Mais eux... Que comptez-vous en faire ? Et que comptez-vous faire des personnes qui les ont rossées en pleine rue ?
Le magistrat sourit. Pour ce qui est des fleurs, ma foi, ils n'ont rien fait d'illégal au regard de la loi de notre empire. Pour ce qui est des coups qu'ils ont reçus, eh bien, vous me rappelez pour quelle raison ? Cette altercation a eu lieu.
Eh bien, ma foi, je n'en sais pas grand-chose. Ce n'est que votre assistant qui m'a parlé de ça l'autre jour. J'aimerais en savoir plus.
Bonne sagesse, je suis quelque peu déçu. Vous ne les avez pas interrogés entre-temps ?
Oh là là là. Le spectateur que je suis n'a rien pigé.
Votre Excellence, sachez que j'ai suivi immédiatement votre assistant qui m'a demandé de venir ici. Je n'ai pas pu les interroger.
Oh bien. J'avais oublié la timeline. Extrêmement resserré tout ça. Soit dit en passant. Je comprends. Du coup, en aparté, est-ce que c'est Docteur Yi qui a des infos là-dessus ou c'est...
Ouais, ouais. Je m'apprête à intervenir.
Très bien.
Il me semble, Votre Excellence, que nous avions convenu que les moniales seraient rappelés à l'ordre, qu'il n'est pas autorisé qu'elles exercent la justice, même pour remettre à leur place un groupe de moines défroqués.
Un groupe de moines qui venait de commettre une grande faute théologique, on peut dire.
Oui. Excusez-moi, je m'emporte.
Défroquer, c'est ce que je voulais en faire, mais vous vous y opposez.
Excusez-moi, les termes, parfois...
Voisin de sagesse, je goûte peu cette impertinence. Je tenais à le signaler.
Votre Excellence...
Rouge de mécontentement.
Votre Excellence, je note que l'intégralité du Yémen, c'est rendre la justice comme il se doit.
Bien. Pour cette affaire, celle démoniale, il n'est pas dans mon habitude de régir les différents religieux. Quoi qu'il en soit, la violence a été employée et c'est regrettable. Un rappel à la loi me semble effectivement important. Pour ce qui est de punir quoi que ce soit, il me semble sans sagesse que, étant donné la grande clémence dont j'ai fait preuve à votre égard, toute requête et tout mécontentement sera reçu avec assez peu de patience.
L'humble personne qui se tient devant vous comprend complètement, Votre Excellence. Je voulais juste être certain que... Eh bien... Si jamais, lors des rares sorties encadrées que mes moines pourront faire hors du monastère et dans les murs de cette cité, qu'ils seraient en sécurité. Mais je vois que Votre Excellence y a déjà songé.
J'y verrai en effet.
Et je vous remercie grandement pour cela.
Le juge a un sourire... Assez agréable qui tranche avec sa sévérité tranchante et lui dit et je vous fais confiance pour que les pèlerins se comportent avec autant de calme que vos moines à l'avenir.
Bien entendu, Votre Excellence.
Fort bien.
Dois-je, Votre Excellence, laisser ici de coton ou bien doit-il comme les autres réintégrer immédiatement le monastère?
Coup de bâton. Doit prendre des coups de bâton.
Balle de coton doit s'acquitter de son devoir envers la loi et il vous reviendra sous peu.
Donc Océan de Sagesse s'incline de nouveau dans la direction du juge Jiang, comprenant ses dernières paroles comme un congé.
Parfait.
Et en sortant, il garde le regard posé sur Balle de Coton. Un regard qui laisse à penser que les coups de bâton que le juge fera infliger à Balle de Coton ne seront que le premier de ces châtiments.
Océan de Sagesse, une dernière chose.
Votre Excellence.
Je suis loin d'égaler les connaissances et la réflexion de votre maître, mais je pense que la véritable sagesse est assez humble pour comprendre que la quête de sagesse n'est jamais terminée. J'espère que vous prendrez votre erreur comme un encouragement à faire mieux et à poursuivre votre quête.
Je ferai en effet bien plus attention à comment la sagesse que J'essaye d'acquérir affect les personnes autour de moi, les personnes dont j'ai la garde, et j'essaierai d'être un meilleur guide, un meilleur père à mon foyer, en quelque sorte.
J'espère que l'assainissement des relations entre les religions de cette belle ville ouvriront un dialogue qui permettra d'enrichir les trois.
J'allais le dire, n'hésitez pas à venir vous rendre au temple confucianiste. Ils sont prodigués des cours pour la réflexion et la sagesse.
Et bien sûr, le docteur Yi se fera un plaisir de se rendre au monastère pour être illuminé par le chemin optique.
Évidemment.
J'ai un fin sourire en sa direction.
Il y a un sourire carnassier qui se dessine sur les lèvres d'Océan de Sagesse.
What?
Je pense que...
Oh, il cherche la merde, il cherche la merde.
Je pense que je le lui rends bien.
Disons qu'il a commencé par être... Il est passé par deux expressions. D'abord, à la réflexion du docteur Yi, c'est ok, mais en gros, c'est le docteur qui fait la loi ici. Et quand le juge a... rendu l'équilibre à sa phrase en disant que le docteur Yi devrait aller aussi, là, c'est là où il a eu son sourire.
C'est dur de veiller sur la paix de la communauté, c'est dur. Désolé, docteur Yi.
Ce n'est que justice, et je pense même que quand cet échange sera terminé, le docteur Yi ira présenter de véritables excuses pour son comportement à Océan de Sagesse. Non pas qu'elle ressente le besoin de s'excuser, mais c'est ce que la voix de Confucius l'incite à faire.
Petit point que on semble avoir oublié dans cette entrevue, Océan de Sagesse n'a aucune raison de savoir que l'un de ses moines a trépassé hier soir.
C'est vrai.
Ah, mais oui, décidément, la timeline, oui, j'avais pas du tout en tête.
Mais oui.
Ouch.
À quel moment est-ce qu'il va être mis au courant?
Je pense que c'est l'occasion le docteur va le raccompagner. Je pense que le juge propose au docteur Yi de raccompagner Océan de Sagesse.
Comment tu sauves la situation, chapeau.
Yes, je propose néanmoins que on joue peut-être ça plus tard parce que Volsung n'a pas eu de scène pour l'instant et ça serait quand même vachement bien que avec l'heure qui avance, on est Xu Changmin qui apparaisse à un moment ou à un autre.
Pour l'instant, la séance est assez étrange. Pas un seul move, pas un seul hexagramme.
Pas le jeu.
Okidoki.
Mais c'est vrai que normalement, le juge n'a pas vraiment à lancer
ça me fait toujours bizarre
le jet pour les hexagrammes.
Que le juge n'ait pas de move, c'est toujours un peu déstabilisant, parfois.
Ah, il a une jauge de vœux, le juge, à faire descendre, c'est déjà pas mal.
Oui, c'est juste...
En même temps, c'est pas mal pour une séance de reprise. Hein. On se chauffe tous, on fait le juge.
Ouais, c'est vrai.
La prochaine fois, c'est moi qui m'y colle.
Et oui.
Bref.
En soudain, le gong retentit.
Je vais arrêter là.
Non, le gong ne retentit point. J'aurais juré avoir vu un fonction alcoolique s'en emparer et commencer à fuir droit devant lui. Nope. Xu Chengming, je m'apprêtais à le décrire en train d'exécuter de la calligraphie taoïste. Puisque visiblement on a signé pour quelques épisodes supplémentaires, ça en fait deux où il est relativement stable, mais on ne change pas comme ça du jour au lendemain. Il faut qu'il poursuive ses séances pour maintenir les mauvais esprits au loin. Mais vu l'heure qu'il est, je me dis qu'il faudrait peut-être mieux au contraire que je le mette en scène en train de battre le pavé, littéralement.
Oh.
J'avais énoncé deux pistes assez mineures, il faut bien l'avouer, que j'avais envie de creuser avant que la pièce que nous avons décidé de jouer ne débute. La première, c'était de tenter d'apprendre si qui que ce soit avait approché les breuvages destinés à Lune d'Argent. Mais j'avoue ne pas avoir envie de lui faire mettre à nouveau les pieds dans le domaine du patriarche Linbin. Il est tout entouré. Ça suffit. Surtout après après cet effet d'annonce qu'il a fait autour de promesses d'aurore. Autant que la prochaine fois qu'il puisse prendre le risque de la croiser, ce soit pour mettre son plan à exécution. Du coup, compagnon, est-ce que vous imaginez, après la nuit que nous avons passée, le Fangchi mélancolique partir comme ça, au petit matin, avec une destination qu'il aurait appris hors champ, rendre visite par la pure suspicion finalement du joueur qu'il incarne à la famille de Lys d'Autun pour s'assurer que l'alibi de Lys d'Autun est avéré. C'est la seule à en avoir un. Est-ce qu'il tient debout ?
Carrément une fausse piste, t'inquiète. J'aime bien parce que en fait, j'ai l'impression que t'es le seul qui enquête sur Yen Bin.
Et puis il en déterre des trucs, hein, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs.
J'avoue que là c'est... Voilà. J'adore le fait qu'il soit monomaniaque là-dessus, c'est marrant.
Eh bien, c'est peut-être le temps du premier, sait-on jamais, du seul lancer de la soirée.
C'est parti. Je vais battre le pavé et ensuite je narrerai. Je tire donc 3 dés. Pair. Impair. Impair. Pac. Pour me rendre dans la ferme, j'imagine, des parents de Lys d'Autun, quel moyen de transport ai-je dû usiter ? Ai-je dû réellement battre le pavé ? Est-ce qu'on a un Shu Chengmin, sion et soufflant, en train d'éponger son front couvert de sueur ?
Alors, le trajet peut se faire en palanquin, ce qui serait adapté si c'était le juge qui se déplaçait. Mm-hmm. Si tu penses que Shu Chengmin sait monter à cheval, possible qu'il empruntait une monture au Yamen. Voilà. Et sinon, c'est à pied.
Si son excellence me propose une monture, j'accepte avec joie. Du coup, cette scène est beaucoup plus classe. Alors qu'on entend le tonnerre des sabots sur la route. Alors que le Fangchi éperonne sa monture et les pans de sa veste flottant derrière lui. Non, sans une certaine grâce, il faut bien l'avouer. Lorsque la caméra s'appesantit sur son profil gracieux, on le sent... comme à l'accoutumée, troublé, il repense aux événements de la veille, à ce spectre qui l'a hanté et le froid qu'il a laissé derrière lui, le fait que l'affaire est piétinée et le fait que, comme trop souvent, son si cher frère juré s'est laissé tourner l'esprit et détourner de la justice par un beau visage de plus.
Il faut qu'on parle.
Jamais. J'arrive en vue peut-être du hameau où un jour Lys d'Autun vu le jour.
Tout à fait. C'est un village entouré de rizières verdoyantes. Et à première vue, même si Shu Chengmin n'est pas spécialement de la paysannerie, les terres ont l'air particulièrement fertiles autour de ce village.
Je me laisse gagner par la poésie, finalement, des lieux, cette nature triomphante. Et je hèle un habitant du coin que je ne manquerai pas de croiser pour qu'il m'aide à retrouver mon chemin.
Une femme qui était en train de glaner des plantes sauvages à l'orée d'un bosquet, une colline qui est plus difficile à la culture et qui du coup est restée sauvage, qui est près de l'entrée du village, t'indique la demeure, effectivement, des parents de Lys d'Autun. Il s'agit d'une maison qui, par rapport au reste du village, est peut-être un petit peu plus grande. C'était pas cossu, mais disons que c'est une grosse ferme, un gros corps de ferme.
Et au fur et à mesure que le trot de ma monture me rapproche de ce domaine, je passe une main sur mon visage. Et je dois bien avouer que ces soupçons risibles étaient une parfaite excuse pour m'éloigner du district et éventuellement ne pas croiser certaines personnes. Je pourrais même se montrer penaud, mais il décide de garder contenance et d'aller jusqu'au bout de son soupçon.
J'aimerais que tu me dises, comme tu as un père,
quel est le trait que tu choisis dans l'hexagramme ? Battre le pavé, ça fait peut-être très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Est-ce que tu voudrais en lire les traits ?
Et de cela même une éternité. Battre le pavé. Faire un tour en ville pour collecter des informations. Et prérequis, aucun. Gain automatique, une rumeur. Dans l'hexagramme, j'ai une rumeur collectée et clairement identifiable comme une piste. Ah, j'ai grand envie de le prendre, celui-là. Ça me donnerait une once de légitimité. L'assistant fait la connaissance du témoin, de l'auteur ou de la victime d'un acte délictueux, passé ou à venir. L'assistant a une occasion de briller publiquement. L'assistant reçoit des informations générales fiables. L'assistant passe du bon temps et peut déclarer un contact. L'assistant fait une mauvaise rencontre ou alerte un coupable. Je choisis une rumeur collectée et clairement identifiable comme une piste. Votre Altesse.
Si tu avais choisi alerte un coupable, tu serais sûr qu'il y aurait un truc qui va pas dans ce village. Je dis ça comme ça.
Mais c'est peut-être quelque chose qui va être pris. Il met pied à terre. Est-ce que la maisonnée est suffisamment cossue pour que il y ait du personnel ?
Alors pas tout de suite. Hein. Tu peux accrocher ton cheval à l'entrée sans qu'il y ait beaucoup de réactions. Et puis finalement, il y a une femme relativement jeune qui traverse la cour. C'est difficile à dire si c'est une ouvrière agricole ou si c'est une servante de maison. Disons qu'elle transporte un seau plein d'eau à la main et semble être très occupée.
Sur moi, il ne s'agirait quand même pas de l'isotone.
Non. Non.
Bonjour madame. Sache que je suis paré de ma coiffe d'assistant du magistrat. Ça fluidifie les conversations.
Mmh. Et bien peut-être que la jeune fille, du coup, t'aura remarqué, pas immédiatement, elle est quand même très affairée à sa tâche, mais à un moment donné, peut-être qu'elle doit déposer son seau au milieu de la cour pour reprendre un peu son souffle. Et là, elle t'aperçoit. Tu sens qu'elle a un moment d'hésitation entre rentrer vite dans le corps du logis pour prévenir quelqu'un ou finir de rentrer avec son seau. Et que finalement, cette hésitation est peut-être plus longue que le temps qu'elle aurait mis à effectivement rentrer dans la maison.
Et ainsi, l'étau se resserre et j'avance d'un pas tranquille dans sa direction et je tâche d'afficher une expression bienveillante.
Elle décide que pour garder contenance, elle va continuer à trimballer son seau, ce qui fait que tu la rejoins à peu près alors qu'elle arrive à une des portes du logis.
J'étais tellement aveuglé à jouer Shu Chengming, harcelé par des spectres et par son instabilité et ses crimes passés, que j'en oubliais un autre rite que je ne puis pas réellement jouer ici. Il ne s'applique pas réellement, qui est la veuve et l'orphelin, vous ne supportez pas la souffrance des autres. D'ailleurs, il me semble que c'est un rite que j'ai shippé à une autre fiche. Mais du coup, ça témoigne quand même d'une sollicitude assez naturelle chez Shu Chengming. Aussi, malgré la fonction qui est la sienne, il va s'empresser d'aider la paysanne à déplacer son lourd fardeau. Et peut-être avec une familiarité inattendue, mais somme toute, toute naturelle chez le Fangchi, il déclare « Laissez-moi vous donner un coup de main.
Oh, » monsieur, ça sera pas nécessaire, hein. Rentrez, je vais appeler monsieur et madame. Le monsieur et madame qu'elle a fait est un titre qui correspond plutôt, on va dire maître et maîtresse de maison, ça n'a rien à voir avec de la noblesse ou quoi que ce soit.
Écoutez, laissez, me voici lancé, je vous accompagne.
Le seau est particulièrement lourd tout de même.
Oui. Et ce faisant, je commence tout de suite à avancer un de mes pions et je déclare « Dites-moi, les propriétaires, n'avaient-ils pas une fille qui est à qui la fortune a souri et qui est partie s'installer en ville ?»«
Ah mais si ! Ah si, c'est Madame Lise d'Auton. Oh là là, elle est venue l'autre jour. Oh là là, mais quelle belle robe ! Quels beaux atours! Oh! Ah, vraiment, elle fait plaisir à voir. Mais et là, elle baisse la voix. Mais quand même, à sa place, je serais heureuse. Hein. Elle a pas arrêté de râler pendant tout le temps où elle était là. Jamais contente, quand même, hein, ces gens-là.
Déjà, j'encaisse le fait qu'elle a réellement été là. Mais ce n'est pas une preuve, car, après tout, nous avons affaire à un criminel excessivement organisé qui n'a pas hésité à faire porter le chapeau à une autre épouse. Qui sait, elle a parfaitement pu déléguer son crime en cédant ainsi la voilette à un de ses sbires. Dis-je en me rattrapant aux branches. Vous dites qu'elle a à se plaindre du mari qu'elle a trouvé ?
Oh bah... Elle regarde encore une fois autour d'elle pour être bien sûre qu'il n'y a personne. Effectivement, le corps du logis semble être assez désert. Et tu vas comprendre un peu plus tard dans la conversation que finalement tout le monde est au champ et qu'elle a été chargée du ménage pendant ce temps-là. Quand même, hein, quand on connaît... quand on sait que madame a eu 7 enfants, que sa mère avant elle en a eu 8, qu'il paraît même que son aïeul en a eu 12 ou 13. Quand même, effectivement, elle aurait bien aimé porter un petit, quoi.
Vous voulez dire que les cieux ne l'ont pas gratifié d'un tel présent ?
Ça a pas l'air, hein. Ah, et puis... elle décollerait pas, hein. Elle décollerait pas que... Il y avait encore une autre épouse sous son toit. Ça doit pas être drôle, quand même, hein. Mais bon... Elle pourrait voir les choses du bon côté. Elle est en ville, elle a des belles robes. Elle vit dans une maison riche. Bon, d'accord. Cette fois-ci... elle était pas accompagnée d'une servante, mais bon... D'habitude, oui. D'habitude, il y a toujours Pivoine qui est avec elle. Une bonne copine, Pivoine. Ouais, un peu de la ville, hein, mais on s'entend bien.
Et habituellement, elle ne s'éloigne jamais d'un pouce de sa maîtresse.
Oui. Pivoine, elle vient tout le temps, ouais. Je m'attendais à ce qu'elle soit là, mais non.
Je ris. Excusez-moi.
Oui, le gif est...
À ce moment où je lâche le saut, tu sais, à la volée, en baglant un yes. Mais enfin, mon bon monsieur, Vlatique, tout le contenu est répandu par terre.
Hey, j'ai pas fait d'accent, hein.
Je sais, vous détestez ça. Oui, je vois. Je gâche qu'elle devait avoir affaire dans la maisonnée. Et donc vous me dites que Dame Lys d'Automne a à se plaindre d'une nouvelle épouse sous son toit.
Oh bah oui, hein. Il paraît même, elle rougit. Là, elle rougit vraiment jusqu'à la pointe de ses oreilles avant de te dire. Il paraît même que c'est une ancienne fleur. Vous rendez compte?
Et vous pensez que de telles choses se savent en ville ?
Ah ben, je sais pas, mais quand même, monsieur son mari devrait quand même faire un peu attention, hein, parce que ça fait quand même mauvais genre. Hein.
Vous savez, je pense que tout le monde a droit à sa chance, ne croyez-vous pas ?
Ben...
Si le destin frappe à votre porte...
Ouais, mais... Après, c'est vrai que c'est peut-être une pauvre fille, hein. Ben, vous savez, hein, on dit des choses comme ça, hein. Qu'il y a des gens qui passent dans les villages, dans les maisons les plus pauvres, et puis qui viennent proposer... On dit que c'est beaucoup d'argent. Enfin, en tout cas, sur le moment, on pense que c'est beaucoup d'argent, puis après, on se rend compte que c'est pas grand-chose, hein. Pour une fille qui pourrait aller travailler à la ville. Alors des fois, les parents, ils font semblant de pas savoir quel va être le travail, hein. Mais bon, on sait bien. On sait bien, hein.
Il acquiesce, pour le coup, l'espace d'un instant, il a une expression qui lui est plus naturelle. Il s'était laissé porter par le jeu. Si ses camarades l'avaient vu, en train de se prêter à à de tels mensonges. Écoutez, je vous remercie pour votre compagnie. Vous m'avez appris des informations précieuses. Je crois que je ne vais pas attendre le retour de vos maîtres.
Ah bah, vous êtes sûr? Parce qu'ils vont rentrer d'un moment à l'autre, hein. Je suis sûr qu'ils seraient ravis de vous voir. Vous venez d'où d'ailleurs? Vous venez du... Vous êtes du Yémen. Vous connaissez le magistrat? Il paraît que le juge Dao est quelqu'un d'exceptionnel.
J'ai...
Oui, la nouvelle que le juge Dao a été remplacé n'est pas encore arrivée jusqu'ici.
Tout à fait. Il éclate d'un rire assez franc et déclare « On ne peut rien vous cacher. Un homme exceptionnel. » Il la gratifie à nouveau d'un hochement de tête et déclare, clin d'œil à l'attention de certains habitués du magnétoroliste, « Long jour et plaisante nuit. » Et se dirige vers son cheval.
Très bien. Je vais juste te laisser présager quelque chose alors que tu... t'en retournes vers la ville.
Dès que j'ai le dos tourné, la paysanne crache par terre.
Non. Quand tu t'en retournes vers la ville, tu as... Donc, pas tout de suite, mais après un certain temps, quand tu te retournes, tu vois qu'il y a relativement loin de toi, et qui d'ailleurs ne te rattrapera pas vraiment avant que tu arrives en ville, un autre cavalier qui suit le même chemin que toi, un peu derrière, alors qu'il n'y avait eu personne sur la route à l'aller.
Naturellement. Eh bien, en tout cas, je galope en toute hâte, car il me faudra arriver au district avant que la coupable ne soit alertée par cet amant ou ce sbire mystérieux.
Nos auditeurs les plus vifs, malgré la date lointaine du troisième épisode, ou simplement ceux qui bingeraient à cet instant cette saga, n'auront pas manqué de remarquer qu'il existe déjà une certaine Pivoine en tant que servante de Rouge Phénix. Aussi, nous appellerons à l'avenir cette dernière Fleur de Prunier, et la toute nouvelle Pivoine gardera ainsi son titre.
On enchaîne sur quelle scène, du coup?
Que voulez-vous faire?
Chose est sûre, c'est que Fleuve Paisible doit... discuter avec l'un d'entre vous.
Eh bien, dans ce cas, procédons à une ellipse, car c'est à notre pouvoir.
Tout à fait. Alors, comment est-ce que tu vois ça? Tu veux, du coup, parler à qui? Tu veux parler au magistrat? Tu veux parler aux assistants?
On n'a pas eu assez de scènes entre assistants, là. Donc,
ouais.
Donc, par exemple, à Chou, ouais, s'il rentre... s'il se remontre le bout de son nez.
Oui, à cheval, allez. C'est relativement rapide. Je pense que tu es de retour pour déjeuner au Yémen à l'heure de midi.
Ok, allons-y.
Vu que la production t'a offert une monture.
Ouais, on l'a loué, autant s'en servir. Je pénètre sous l'arche du Yémen. Toujours au trot.
Et jaillissant
des ombres,
tu surprends Fleuve Paisible dans une espèce de position assez étrange, comme s'il il attendait quelque chose, comme s'il il hésitait en fait à faire quelque chose, comme un écolier puni qui doit aller voir le maître et qui n'ose pas, peut-être devant une porte à faire les 100 pas et qui te voit comme une espèce d'apparition, qui est une espèce de... une forme de surprise, très... il y a de soulagement en voyant ton visage.
Hésitation de la part du Feng Shi. Son cheval fait un pas d'écart. Il a une légère expression de surprise, lui aussi. Et il tente à nouveau de garder contenance et va harnacher son cheval. Sans mot dire.
Et donc, Fleuve Paisible te suit. Il te semble très tendu, mais il force un sourire en te voyant descendre de monture. Et te dit avec une bonhomie qui cache mal un désespoir amer. Vous savez, pour quelqu'un qui cache autant de profondeur insoupçonnée, je ne peux m'empêcher de lire en vous comme dans un livre ouvert. Et ce que j'y lis, c'est... très peu de considération envers moi. Vous me jugez durement, n'est-ce pas?
Jusqu'ici, le Fang-Chi avait le dos tourné, et alors que ses paroles se font entendre, son langage corporel est sans équivoque, baisse la tête et ses épaules retombent, comme abattues par un poids. Comment vous faire confiance, frère juré, alors que le moindre battement de cils vous fait tourner la tête? Cette femme est vraisemblablement une meurtrière.
J'en suis parfaitement conscient.
Est-ce que un port de tête, un regard gracieux, suffit à vos yeux à absoudre de tous les péchés?
Tu connais la réponse.
Putain, ça faisait longtemps. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Jia Shirang m'a susurré ses horreurs à l'oreille? Il est de retour?
En tout cas, tu as eu l'impression d'entendre ces mots à l'oreille. Il n'est pas... Tu pourrais jurer que c'est sa voix, mais il n'est pas aussi matériel que avant le traitement.
C'est cohérent de toute manière, c'est pas comme si j'avais changé d'archétype. Hanté j'étais, hanté je le suis, surtout maintenant qu'on est financé pour quelques épisodes de plus. Mais du coup, qu'as-tu déclaré?
Donc, paisible se rapproche, passe devant toi et vient près de l'encolure du cheval, lui flatte la tête, la crinière, avec beaucoup de gentillesse, et toujours ce sourire amer qui semble mal dissimulé, cette océan de tristesse. Et il dit simplement, c'est donc l'opinion que vous avez de moi. Elle est sans doute méritée. Vous pensez qu'un joli tour de tête ou qu'un joli verre peut me mettre au pied d'une meurtrière, c'est cela?
Il a du mal à te regarder dans les yeux. Ses lèvres tremblent et alors qu'il prend la parole, le timbre de sa voix le trahit tout de suite par son tremblement. J'ai vu comment vous la regardiez. J'ai même entendu certaines paroles que vous avez échangées. Vous semblez bel et bien épris, conquis.
Le paisible ferme les yeux et il y a une forme de douleur qui se lit sur ses traits, comme si il acceptait ta lecture, comme s'il la reconnaissait en un sens. Il dit simplement, j'ai commis des actes qui, s'ils ne sont pas insoutenables, s'ils ne me tiennent pas éveillé la nuit, sont jugés par le commun des mortels comme odieux. J'ai été chevalier des Vertes Forêts, j'ai été, pour employer un mot moins poétique, un bandit de grand chemin. Il m'est arrivé de rosser des gens pour survivre une semaine de plus avec leurs économies. Je n'ai pas mené une vie très glorieuse. Il y a une part de moi qui estime que, eh bien, les gens comme moi, les gens de rien, les gens qui n'inspirent que le mépris, si moi je ne les aime pas, qui les aimera? Alors oui, il m'arrive parfois de me laisser emporter par cette affection trop grande pour les gens de la marge, mais il a un long soupir et un petit sourire comme s'il riait d'une plaisanterie connue de lui seul. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de mon vieux maître, cet ermite, et je te laisse parler.
et malgré les paroles graves qui s'échangent, l'attention de Chou est légèrement distraite par par le spectre de coquille vide qui est allongé négligemment sur un tas de paille un petit peu derrière Fluff Paisible et qui négligemment déclame quelques vers N'adorez pas votre veste au fil doré. Adorez plutôt votre belle jeunesse. Les fleurs sont là, cueillez-les aussitôt. À quoi bon couper des tiges dénudées ? À mon avis, il a raison.
Cette vision, c'est comme un lundi pour Fu Changmin. Parce que je pense qu'il a toujours été visité de la sorte. Mais j'ai plus envie de rebondir sur les... effectivement, la réplique de Fleuve Paisible. Et donc, dès l'instant où il déclare finalement que il aime les personnes faillibles, les personnes coupables, les personnes dont l'âme est entachée, il les aime pour leur imperfection, parce que s'il ne le fait pas, personne ne le fera. Et bien, dès l'instant où il a déclaré ça, Fu Changmin a baissé les yeux, avisant ses mains et commencer à presque les frotter sans y prêter attention, comme si elles étaient souillées de sang. Et l'espace d'un instant, il s'est retrouvé en un autre lieu où un poignard ensanglanté teintait sur le sol le corps de Dong Qiaolian, l'ancienne Fang Chi du district, décédé à ses pieds.
Fleuve Paisible ne voit pas cela, il est encore les yeux posés sur la robe du cheval. Tout à sa plaisanterie secrète. Ce vieux maître qui a essayé de faire de moi quelqu'un de respectable. Il me parlait d'un fruit ou d'un légume peut-être, fantaisiste. Rencontré selon lui dans ces lointaines contrées barbares, dans ces mers inconnues. Il me parlait d'un légume, dis-je, qui... ses feuilles lentement, en arrachant quelques fractions de cœur, un bout de cœur avec chaque feuille. Voyez-vous, Chou, il est vrai que je donne mon cœur trop facilement, mais il est vrai que ces fractions que j'offre avec chaque feuille sont données avec sincérité, et que chaque bout que je donne est une déchirure qui, souvent, me mord en retour, mais si j'enlève les feuilles, si je vais jusqu'au cœur, ce cœur demeure, et il n'appartient qu'à une seule personne. Je baisse le regard et je n'ose pas croiser le tien.
Un long silence, qui est aussi le mien, alors que tu continues d'augmenter la mise en termes de drama, et qu'en coulisses, nos acolytes enchaîne les railleries, les colibets, les jeux de mots, un artichaut. Sincèrement.
Il fallait que je le fasse.
Le meilleur jeu de mots de la soirée, je suis désolée, il est parfait.
Ce rire était fantastique. Il faut qu'il soit conservé. Nous venons à peine d'être financés. C'est pas comme si j'allais tomber dans tes bras, frère juré.
Allez, 5 saisons et 2 films.
Il faut que je réussisse. À beauté en touche, dribblé. C'est un cœur troublé, un cœur blessé que celui de mon personnage. Cette créature volage qu'est la tienne, qui est en train de me promettre la lune, bien qu'elle butine de droite et de gauche, on lui a déjà servi une telle chanson. À ce moment-là, Chou laisse encore échapper un soupir, alors qu'une autre image lui vient, cette fois de Jashiron, qui, alors qu'il riait aux éclats en train de charmer je ne sais quelle servante à Corte, plus tard, saisissant entre ses mains le visage de son bien-aimé, de son préféré, l'abreuvant de paroles rassurantes, lui disant qu'il n'avait Dieu que pour lui et qu'il ne faisait que jouer de ses charmes, sans une seule seconde que son cœur ne se détourne de l'adoration qu'il avait pour Chou. Putain, j'ai des images d'entretien avec un vampire, c'est parfait. Mais bien, c'est sérieux. Et Chou secoue la tête. Et au prix d'un effort, où son regard se fait ô combien plus dur et plus injuste aussi, hélas. Il déclare « Qu'allez-vous faire, frère juré ? Où va votre allégeance ?»
Je fais paisible. Un petit sourire.
J'ose même ajouter, est-ce que le refuge dans lequel clarté compatissante a été caché doit rester secret à votre connaissance?
Je vois qu'il y a le sourire change sur les lèvres de Fleuve Paisible. Il devient plus sombre. Il te dit j'irai au rendez-vous de la poétesse. Et il sort de sa manche un petit paquet fermement scellé. Il te dit j'ai rendu visite à mon ami l'apothicaire. Il est possible, mais je ne sais pas si je choisirai encore cette option, mais il est possible que je lui dise ce qu'elle veut entendre. Et lorsque nous serons sur le point de sceller notre accord, que je lui serve une tasse de thé à la digitale. Je ne vois pas d'issue à ce problème qui ne passe pas par la mort de quelqu'un.
Waouh. Alors là, pour le coup, le Fonchi chancelle. Et entre parenthèses, vous et moi, j'aime beaucoup surjouer ses réactions. Parce que ça me rappelle certains acteurs de Wuxia qui justement... avait tendance à s'alarmer, à s'ébranler derrière rien. Autant dire qu'il est dans son élément. Vous ôteriez sa vie? Jamais le juge n'acceptera. Vous couvriez de disgrâce, vous deviendrez vous-même un assassin aux yeux de la loi. Vous n'y pensez pas?
Je ne tirerai pas au juge, et peut-être que je vous mets dans la confidence pour vous laisser une chance de me dissuader.
Vous devez faire confiance à la justice, vous devez faire confiance au sens du discernement du juge et
Je pose une main fermement sur ton poignet.
L'acuité de ses acolytes. Nous pouvons la faire craquer, nous pouvons la faire parler.
Chou. C'est une espionne impériale. Elle incarne la chef de maison de notre société tout entière.
Et nous sommes tous au service de Sa Majesté.
Exactement. Pourtant, Sa Majesté, par son bras armé, nous demande de faire quelque chose d'injuste. C'est un problème insoluble. Et tout ce que je peux faire, c'est le trancher sans impliquer la conscience du juge.
Là, il vacille réellement. Et peut-être qu'il se soutient sur tes avant-bras puissants.
La tentation est très grande.
Pas que faire. Et là, pour le coup, sa jalousie, sa rancœur, tout cela s'est envolé devant la voie à laquelle tu te destines. Nous devons tous en parler ensemble. Vous ne pouvez pas faire ça.
Le docteur, peut-être, mais je ne peux pas faire ça, mademoiselle. Impliquer là-dedans, ce serait... Mais peut-être que la sagesse du docteur serait, en effet, salutaire.
Il a fait preuve maintes fois d'une grande sagesse. Il a réussi à chasser mes démons et je suis sûr qu'il nous aidera à voir cette affaire sous un autre jour. De grâce, demandez son conseil avant d'agir.
Je peux voir que je suis en train de décompenser un petit peu l'énorme tension qui m'anime depuis la veille et que je suis extrêmement soulagé de tes paroles.
Et de mon côté, je vais tâcher de honorer la confiance qu'est la vôtre et de ne pas mettre au courant le juge de vos agissements.
Merci, Chou. Merci.
Oui, je le vous vois. Docteur, vous devriez arrêter de vous exprimer par écrit.
Non, mais c'est trop beau. Moi, je veux pas casser la tension narrative, tu comprends.
Quelle est la dernière scène qui achève cette partie étrange?
Eh ben, je crois qu'on s'arrête là. Hein.
Ah oui. Moi, je suis désolée, mais je joue pas avec ça après ça, quoi.
Et donc, cette fois, c'est avec la grue que nous avons louée que la vue s'élève et qu'à nouveau le vent s'engouffre dans la cour et qu'un cortège de feuilles entoure les amants maudits.
Obligé.
Comment qu'ils ne sont pas, d'ailleurs.
Obligé.
Oui, car il faut dire que à l'époque des Tang, il n'y avait pas encore de drones, et donc c'était des grues qui portaient les caméras.
J'avoue qu'après avoir entendu parler de scorpions, la dernière fois, je pensais moi aussi à un clan et à un oiseau. Du coup, j'étais très confus sur l'image. On a loué des grues.
On loue bien des chevaux, on peut bien louer des grues.
C'est un Shuganja. Mais c'est totalement, totalement une scorpion, quoi.
Mais
et,
oui.
Et je la respecte aussi pour cela. C'est pas facile. C'est un clan,
ah non,
un clan tellement incompris.
C'est une vie terrible.
Mais il n'y a pas plus fidèle dans tout l'Empire.
Ah, c'est parfait. Hein. Du secret entre vous. Voilà, donc il y a tout le terreau possible et imaginable pour que le drama et les quiproquos continuent. C'est parfait. Avec tout le monde au courant, bien sûr, qu'on est en plein quiproquo et en plein. Ouais, bref.
C'est ça.
Ça va être parfait.
Je vous ai trouvé brillant.
Merci, docteur.
Merci beaucoup.
Ce fut un épisode de transition où on a eu pris le temps de s'échauffer. Et voilà, on met tout en place pour mettre un bon coup de taquet, un bon taquet, pardon, dans la tour de Jenga.
M'étonne,
oui.
Bon taquet au moine bouddhiste, là.
Oui.
Ah,
ouais.
Il lui a rien manqué au Céline.
Je m'y attendais pas. Je m'y attendais tellement pas. Je pensais que les deux scènes allaient être expédiées comme une formalité. Mais voilà, vous prenez au jeu du juge.
Ouais,
c'est la vôtre.
Je regrette un peu d'avoir autant expédié avec Kinbei. Tu vois, enfin, en fait, c'est pas que je regrette d'avoir expédié. Je suis contente de la scène et tout. Mais à côté de la façon dont JC a magistralement incarné le magistrat juste après, je regrette de pas avoir donné plus de couleurs.
Eh ben, j'ai pas lu le Discord pendant. Et je me trouvais pas top, donc je suis rassuré en fait. Parce que
ah ouais,
je suis toujours un peu frustré, enfin, un peu frustré, je pense, par le fait que, comme c'est une jauge que je vois pas, je sais pas si je tape à côté, si je suis pertinent, si voilà. Donc, comme j'ai pas de move en fait, je sais jamais vraiment s'il faudrait que j'insiste, par exemple, sur les pèlerins, ou si j'ai été ok, enfin voilà, c'est pas toujours simple de savoir si on est dans les clous, quoi.
Ah ouais, moi j'ai trouvé que t'avais une utilisation fine des informations que, bah, que les assistants étaient censés lui avoir rapportées, donc de ce que tu connaissais du jeu en fait.
Ah bah cool.
Et que, bah, je sais pas, t'avais des répliques un peu cinglantes et en même temps tu
faisais
transpirer la sagesse. Enfin, je sais pas, je me suis trouvée vraiment palote comme magistrat
non,
juste avant.
T'inquiète, t'as bien brillé aussi, il n'y a pas de problème.
Ouais, ouais, non, mais je pense que c'est
les...
de comparer moi, tu vois.
Je pense que tous deux, vous n'avez pas à rougir de votre incarnation du juge.
Non, surtout que moi, j'ai dû me résoudre au fait de donner des coups de bâton, alors que toi, t'as une idée super créative pour la punition du médecin, c'était très chouette. Donc, ouais.
C'est amusant, ce juge à la personnalité changeante.
Oui, hein.
Il est toujours irréprochable.
Je suis le seul à lui donner une petite voix chevrotante. C'est pas chevrotante, quand je le fais parler, on dirait que j'ai un truc dans la bouche. Le chantier octuple.
Je crois que Docteur Yi a une... Enfin, Mademoiselle Yi a une... pour le traitement des bouddhistes.
Oui, oui. Alors après, ça pour le coup, c'est quelque chose qui va se sentir par la suite, parce que là, maintenant, c'est officiel, du coup, l'abbé du monastère, et donc très vite tout le monastère, va considérer qu'en fait, c'est le docteur Yi qui fait la loi par rapport aux bouddhistes et qui radicalise le juge et qui...
L'ennemi.
Ah oui, non, mais là, du coup, là, maintenant, t'es clairement désigné. Et puis même si le juge a rééquilibré les choses, il est globalement allé dans ton sens.
Ouais.
Oui.
Et du coup... Ben, de leur point de vue, il
y a du favoritisme, quoi.
Voilà, il n'y a pas eu impartialité, quoi.
Ouais. Mais je les comprends. Je les comprends. En même temps, s'ils n'avaient pas été aussi nazes dès le départ, ils n'auraient pas eu à se heurter au jugement. Voilà, c'est tout.
C'est... Certes.
Excusez-moi, mais est-ce qu'on a vu un confucianiste rentrer dans le tribunal au banc des accusés? Hein? Eh bien, non.
Pour l'instant, non.
Il faut l'avouer.
Bon, on a vu surtout des taoïstes castagner des bouddhistes, mais...
C'est vrai.
Les peines ont été clémentes pour l'instant de ce côté-ci.
Mais le docteur Yi n'avait rien à voir avec ça. Enfin,
certes.
Un peu quand même. Si pour les moniales, si quand même. Ok, bon, j'ai rien dit. Clairement, il n'y a pas du tout d'impartialité. Mais en même temps, tu vois, si on joue effectivement 12 saisons et un film, ou 6 saisons et 2 films, comme vous voulez, peut-être qu'on verra un rapprochement entre les 3 religions. Je ne sais pas.
Ça serait incroyable.
En tout cas, ça m'a fait bien plaisir de retrouver les assistants du juge, d'arpenter le district de Sangguan.
Ouais, c'était chouette.
J'ai même eu droit à un bol d'air frais, ce qui ne gâche rien. Donc là, je me rends compte à quel point ça m'avait manqué.
Moi aussi, j'avoue.
Ouais.
Ça faisait très longtemps que j'étais dans la tête de Fluff Paisible à peser cette décision affreuse. Donc c'était très chouette de le jouer enfin.
Ouais. C'est super de commencer à te voir avancer tes pions sur cet échiquier complètement déséquilibré dans lequel je t'ai placé.
Oui, c'est parfait. Et du coup, j'avais hâte.
Ah, moi, le truc de la fin, enfin, je m'y attendais pas du tout et je pense que tu vas surprendre plus d'un auditeur. Et alors, les auditrices. Non, franchement, je m'attendais pas du tout à ce que Fluff Paisible. Il y a un comportement calculateur un peu comme ça, et en même temps terriblement tragique, ça on le savait, mais à ce point.
Tu comprends pourquoi je me sens aussi proche de l'espionne assassine, au fond.
C'est terrible.
C'est beau.
Et puis cette façon que tu as d'avoir mis, comment dire, avant de parler de ce truc terrible, tu mets tes sentiments pour Chou dans la balance, bref... Tout est chargé à bloc, là.
Tout est chargé à bloc.
Ouais, puis tu culpabilises les gens, en plus. Hein.
Mais
c'est
non.
Comme ça que vous me voyez. Hein, avouez. Oh.
Bah, il se sentait très, très blessé, forcément.
Je suis très contente que Chou puisse vivre un peu plus en paix avec ses fantômes pour pouvoir déchaîner ses pouvoirs de Feng Shi la prochaine fois.
Exactement.
Pour l'instant.
Oui, c'est ça, exactement. Non, mais le calme avant la tempête.
Non, il faut bien les faire revenir un petit peu, quoi. Et puis j'avais envie de te mettre aussi, même si l'intervention est toujours un petit peu ridicule, parce qu'il a une grande part de ridicule, ce personnage, mais coquille vide, venir déclamer des vers au milieu, comme un cheveu sur la soupe.
Toujours d'une justesse.
Je l'imaginais un petit peu comme une sorte de... Tu sais, de Bacchus sur son lit de paille.
Mais vraiment, à fond.
La bedaine sortant un peu de sa veste. Et,
C'est top parce que j'ai très peu de connaissances des fictions chinoises, mais c'est vrai qu'il y a ce personnage de l'outrance qui est au final quand même bluffante pour l'audience. Et c'est top, quoi. Je jouais tout à fait le genre d'archétype. C'était très très bien joué, quoi.
Bah j'avoue que le début était. J'étais vraiment en.
Ouais, c'est chaud.
J'ai été sous tension tout du long jusqu'à ce que vous fassiez enfin votre scène tous les deux. Je vais pouvoir me reposer un petit peu et prendre du popcorn.
C'est vrai que ça fait longtemps, donc on était un peu à froid, quoi. C'était forcément complexe de commencer.
Ouais. Non, mais c'est surtout que j'étais toujours. J'étais toujours au centre du truc sur toutes les premières scènes. Que ça soit en tant qu'accusé, hein. Je suis plus accusé quand même dans le truc. Ou que témoin, du coup, qui devient témoin à charge assez vite.
Oui, je me suis justement fait cette réflexion que pour le tour de chauffe, là, tu donnais pas mal de ta personne.
C'est vrai qu'on a tendance à oublier que derrière tous ces accusés qui ont pris grave cher dans leurs dents, il y a un petit cœur qui bat. Celui de notre MJ.
Ouais.
Ah, mais c'était bien.
Ouais, c'était bien. Je suis vraiment contente de vous avoir retrouvés là tous les trois.
Oui, moi aussi.
Allez, je pense qu'on peut tirer le rideau du coup.
Et bien, le rideau. Merci à tous.
Merci pour tout et à bientôt.
Aïe.
Parlez un peu pour voir.
Allô, allô.
Oh, à moi.
À moi, à moi, à moi.
Ouais, la berceuse.
La berceuse. La berceuse.
Ouais.
La berceuse.
Oui.
Ouais.
Non, mais c'est bon, c'est moi qui fais des tests.
D'accord. Ah, d'accord.
Bon, voilà, l'enregistrement
la
local.
La berceuse.
Sera le genre humain. Mais c'est un projet, à un moment donné, d'arriver à faire magistrat et manigance dans l'univers de Xuya, quoi. Ça serait...
Bien sûr.
Ça serait tellement adapté, à mon avis.
L'univers de quoi ?
Xuya, des romans d'Aliette de Baudard.
Ah, la fameuse.
Oui, les empires galactiques vietnamiens. Oh,
Mindships et manigance. C'est tellement ça.
Oh yes.
Mon Dieu, il faut que ça arrive maintenant.
Bah oui, c'est obligé maintenant.
Carrément.
Le juge, c'est un vaisseau.
Mais carrément.
On va chercher des poussettes.
Ah, ça fait des poussettes king size quand même. Hein.
Ouais.
Galactic size.